Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Intellectuels, politiques, parents d'élèves, enseignants, nombreux sont ceux qui ont vivement réagi à la réforme du collège présentée en Conseil des ministres par vous. Madame la ministre, bonjour, Najat Vallaud-Belkacem. Devrais-je dire qui c'est, Ave Najat, donc présenté le 11 mars et adopté par le Conseil supérieur de l'éducation le 10 avril dans l'effervescence ambiante. Il est cependant important de dire que cette partie de la réforme fraîchement adoptée concerne l'organisation et les pratiques pédagogiques du collège, mais pas encore le contenu des programmes qui lui est actuellement soumis à la consultation des enseignants, et ce jusqu'au 12 juin. On a encore donc jusqu'au 12 juin pour éventuellement se mettre en colère, mais qui sait, pour faire avancer un texte que certains voudraient voir amendé. La confusion étant levée, revenons-en tout de même, Madame la Ministre, aux vives réactions qui alimentent les ondes et les colonnes des journaux depuis maintenant presque un mois. La presse encore de ce matin, Jacques Lang dans le Figaro. Pourquoi commencer par casser ce qui marche, dit-il, dans le Figaro. Ou alors d'autres qui prennent votre défense, comme Maya Akkari et Caroline Veltcheff dans les pages rebondes de Libération Collège, avec cette question, la fin des filières cachées, qui sont plutôt favorables à la réforme que vous proposez. Alors, éternel débat entre l'élitisme et l'égalitarisme. Madame la Ministre de l'Éducation, vous êtes avec nous ce matin pour répondre à ces nombreuses interrogations qui entourent cette nouvelle guerre scolaire, pour reprendre la une du Monde datée de ce jour. Et puis avant d'entrer dans le vif du sujet, notez qu'en deuxième partie, amis auditeurs, nous recevrons Anne Weber pour son ouvrage Vaterland aux éditions du Seuil, allemande, francophone avertie. Elle nous parlera de son rapport aux mots, à la langue et à cette idée de germanitude. Nous sommes en compagnie, Najat Vallaud-Belkacem. On a mis les petits plats dans les grands avec vous, parce que on a le spécialiste de l'automobile et des voitures à France Culture, Hakim Kasmi, mais qui est aussi le spécialiste de l'éducation nationale, et puis nous avons le politicard de l'étape avec Frédéric Mettezou. Vous attendiez-vous à une levée de bouclier à ce point aussi forte quant à la réforme du collège, Madame la Ministre ?
D'abord, merci de me recevoir, et j'espère qu'on va avoir le temps de lever les inquiétudes qui peuvent demeurer pour certains, et puis surtout expliquer ce qu'est cette réforme. Est-ce que je m'attendais à cette levée de bouclier ? Je m'attendais à ce que forcément il y ait des contestations de la réforme. À chaque fois qu'on a une réforme du système scolaire, ça entraîne le même type de débat. Mais je vous avoue qu'il y a une chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que soit à ce point occultés les élèves en difficulté au sein du collège actuel. Parce que dans le débat qui nous occupe maintenant
quoi
depuis 3 semaines...
Quoi que soit occulté le fait que les études partout internationales disent que notre système ne marche pas de moins en moins
sûr,
bien, qu'il laisse sur le bas de la route...
Et pour dire les choses encore plus simplement, depuis 3 semaines, on parle de 15% d'élèves. En parlant des classes bilingues, en parlant de l'option, parce que c'est bien l'option latin et grec qui n'existera plus en tant que telle pour être remplacée par un cours latin et grec qui sera offert à tous les élèves, hein, je le redis ici. Donc en parlant de cela, on parle de 15% des élèves. Et ceux qui nous en parlent, pour critiquer la réforme, au fond nous parlent d'un collège idéalisé, d'un collège rêvé, mais qui n'est pas le collège de 85% des élèves, dont beaucoup sont en difficulté, voire en souffrance scolaire, et auxquels on veut apporter des réponses grâce à cette réforme, ce qui passe complètement inaperçu, et c'est ça que je regrette dans les débats actuels. Qu'on ait des accords de fond, ça ne me dérange pas, mais prenons le temps simplement de reprendre le diagnostic. Le collège français va mal, il produit de plus en plus d'échecs, il produit et il reproduit de plus en plus d'inégalités
sociales. Il faut se fier aux enquêtes, comme les enquêtes PISA qui décrivent ça, qui
Absolument.
Le démontrent.
Mais les enquêtes PISA, précisément, ça fait des années qu'elles nous disent que notre collège, depuis 10 ans en particulier, a des résultats dégradés. D'autres pays autour de nous ont eu aussi des alertes de ce type. Ils ont adopté des réformes pour s'améliorer. Et du coup, eh bien, ces 10 dernières années, ils nous ont dépassés. Vous vous rendez compte qu'on est dépassés par la plupart des pays qui nous entourent en matière de performance des élèves au collège. Et je parle bien, ce faisant, de tous les élèves, y compris des meilleurs. Parce que là où il ne faut pas se leurrer, c'est que dans un collège inégalitaire tel que celui qui existe aujourd'hui, eh bien l'élite n'est pas si bonne que cela. L'élite est moins bonne puisque par définition elle est moins challengée, elle est moins stimulée pour être encore meilleure. Ce sont dans les pays où on a une vraie base large pour l'élite, c'est-à-dire où on permet à chaque élève vraiment d'accéder à la réussite scolaire, que l'élite est meilleure parce qu'elle est plus concurrencée.
Juste une petite question, on n'en fera pas tout en plat, mais de méthode, vous êtes sur France Culture aujourd'hui, une radio où sévissent de nombreux pseudo-intellectuels que vous avez dénoncé, vous regrettez la formule Alain Finkielkraut tous les samedis matins depuis 30 ans, régale les auditeurs de France Culture. Il a fait savoir qu'il n'était pas foncièrement très favorable à quelques-unes de vos propositions. Faut-il vraiment que les ministres ou comme Manuel Valls rentrent dans le débat en invectivant les intellectuels qu'ils les aiment ou qu'ils ne les aiment pas, Najat Vallaud-Belkacem?
Oh, dans un monde idéal, dans un débat public idéal...
Parce que soyons d'accord, Alain Finkielkraut, vous êtes d'accord ou pas d'accord, c'est pas un pseudo-intellectuel.
Dans un débat public idéal, il n'y aurait en effet jamais d'invective. Enfin, comme bon, j'ai pas l'impression d'en avoir été épargné, pardonnez-moi. Mais je voudrais revenir sur cette notion, parce qu'en plus, pour les auditeurs qui nous écoutent...
Ce sont les mêmes qui écoutent Alain Finkielkraut le samedi matin.
Oui, absolument.
Chez nous.
Je voudrais être très claire. Lorsque j'ai utilisé... parce que le débat s'est chauffé, cette expression, je l'ai utilisée à l'encontre de certains intellectuels éditorialistes polémistes qui faisaient semblant de ne pas comprendre la réforme en annonçant la suppression, la disparition des humanités, mais quelle plaisanterie, en annonçant la disparition de l'allemand. Vous voulez dire, vous rendez compte qu'au lieu de nous dire, bon, les classes bilingues ne vont plus exister sous leur forme actuelle, on nous disait dans les premiers papiers qui sont sortis dans la presse, l'allemand va disparaître du collège. Comment ne pas inquiéter l'opinion publique quand on raconte des énormités pareilles ? Donc c'est ça que je n'accepte pas. Ce sont les contre-vérités qui instillent le doute et qui, au fond, trompent totalement sur la nature de cette réforme. Donc je le redis ici, puisqu'on a parlé des classes bilingues, l'allemand, évidemment, continue à être enseigné et va même être promu. Pourquoi ? Comme toutes les autres langues, parce qu'on avance d'un an pour 100% des collégiens l'apprentissage de la langue vivante 2, ce qui signifie plus d'heures sur la scolarité. Et donc ça répond à la question des professeurs d'allemand qui se demandent s'ils vont avoir suffisamment d'heures à effectuer dans un même établissement.
Ou même de ceux qui se disent, est-ce qu'il y aura assez de profs, tout court ?
Mais enfin, il suffit de prendre les chiffres, pardonnez-moi monsieur Boinchet, mais il suffit de prendre les chiffres, notamment pour les opposer à la majorité précédente, la droite là qui est très vocale, comme on dit, pour nous donner des leçons. Mais enfin, quand on regarde par exemple les postes de professeurs d'allemand, en 2010, il y en avait 200 d'ouverts. L'année prochaine, à la rentrée de 2015, nous en ouvrons 515. Est-ce que nous ouvririons davantage de postes de professeurs d'allemand si nous pensions que nous allions réduire le nombre de locuteurs germanistes ? Au contraire, il y en aura plus. Pourquoi il y en aura plus ? Donc la LV2, on en a parlé, avancée d'un an pour tous les collégiens, donc ça fait plus de collégiens en cours d'allemand à partir de la 5e, pour dire les choses rapidement, plus que ce qui existe aujourd'hui avec les classes bilingues. Et deuxième point sur lequel je voudrais insister, cette question des classes bilingues, c'est-à-dire de la possibilité de faire deux langues dès la classe de 6e. Il faut comprendre qu'elle demeurera, cette possibilité, même cette garantie, pour les élèves ayant pris en langue vivante une à l'école primaire, une autre langue que l'anglais. Et c'est très important. Pourquoi on a conçu les choses comme ça ? Pour garantir la diversité des langues choisies en langue vivante une et qu'il n'y ait pas que l'anglais qui soit pris. Donc on rassure d'une certaine façon les parents en leur disant si vous faites faire par exemple de l'allemand ou autre langue en LV1, votre enfant pourra accéder à l'anglais dès la classe de 6e et pas plus tard dans sa scolarité.
Tenez, on va faire un exercice pratique tout de suite là, tout de go. Le petit Mettezo, il est dans ce cas-là, Frédéric Mettezo, il est dans une classe bilingue dans le nord de la France, il n'est pas spécialement dans un lycée d'élite. Non mais allons-y, vous savez, vous en avez parlé ce matin. Alors, est-ce que vous êtes rassuré ou pas par ce qu'annonce la ministre ?
Mais en l'occurrence, mon enfant n'est pas concerné par la réforme puisqu'il est déjà en sixième, qui fait deux langues et que du coup il fera une deuxième langue. Mais la question c'est est-ce qu'une classe bilingue, Madame la Ministre, est forcément une classe élitiste ou une classe d'élite, sachant qu'il n'y a pas de dossier scolaire ou de notes minimum à avoir. Tous les élèves peuvent y rentrer. Et je vais juste vous citer un exemple. Un petit garçon a dit à mon fils, je suis content d'avoir des copains bons élèves parce que moi j'étais pas bon et ça m'aide à devenir bon.
Est-ce que les classes bilingues sont des classes élitistes ? Enfin, d'abord, on peut regarder les chiffres et je suis étonnée que personne, quasiment, n'ait songé à le faire. Donc, quand on regarde, 11% des élèves de 6e et 5e aujourd'hui sont en classe bilingue. Les écarts sont en effet importants selon l'origine sociale. 16% des élèves d'origine très favorisée sont dans ces classes bilingues. 8% des élèves d'origine défavorisée sont dans ces classes bilingues. Prenons les sections européennes pour prendre un autre exemple. 10% des élèves de 4e et 3e sont en section européenne. Les écarts, là encore, sont importants selon l'origine sociale. 18% des élèves d'origine très favorisée sont en section européenne. Seulement 6% des élèves d'origine défavorisée sont en section européenne. Mais une fois qu'on a dit ça, moi je ne suis pas là pour faire de la lutte des classes, ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas tant l'élitisme au sens social du terme, même si on doit veiller, et c'est ma mission de ministre de l'Éducation nationale, à contrer le déterminisme social qu'on constate dans le collège. Mais le sujet, c'est est-ce qu'à 11 ans, en classe de 6e, est-ce que c'est bien pertinent de trier les enfants et de les séparer alors que la mixité scolaire au contraire, a tant de vertus. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir des classes dans lesquelles vous ayez des bons élèves, de moins bons élèves, qui peuvent se tirer vers le haut?
Ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal de l'école de la République,
alors,
a priori.
C'est l'idéal. Non, mais c'est, je comprends que cet idéal provoque de l'appréhension parce qu'on se dit, oui, mais ça restera malgré tout inégalitaire, le collège, et donc je préfère mettre à l'abri mes enfants. Je comprends cela. Mais ce qu'il faut comprendre, à votre tour, c'est que la réforme du collège, elle est faite pour rompre avec un collège inégalitaire, pour avoir des classes dans lesquelles les enfants ne soient plus noyés dans la masse, dans lesquelles on offre de l'accompagnement personnalisé à chacun d'entre eux, c'est-à-dire qu'on s'adapte à leurs différences. Et donc ceux qui sont en avance, par exemple, si votre fils est bon élève, et tant mieux, et je le souhaite, voire surdoué, eh bien, il aura un accompagnement personnalisé qui lui permettra d'approfondir ses connaissances. Il ne va pas être retardé par les autres. Mais je crois vraiment que la mixité scolaire, tout comme la mixité sociale, on a à y gagner, et donc il faut organiser un collège pour cela. Alors, et pas un collège qui différencie les élèves dès l'âge de 11 ans. Enfin, franchement, on peut quand même attendre l'âge de 16 ans pour aller dans des filières, des sections, pour être dans la sélection.
Alors, ce matin, dans le Figaro, Jacques Lang dit, au fond, fallait-il lancer dans cette réforme du collège, question de Figaro, il répond, oui, elle se situe dans le sillage des réformes que nous avions envisagées, Ségolène Royal, puis moi-même. Ça, c'est Jacques Lang dans le Figaro. Du coup, nous avons écouté attentivement, chez nos amis de France Info, François Dubé, professeur de sociologie à Bordeaux, et qui, au fond, replace votre réforme à vous dans une continuité de réforme qui, vous allez voir, va finalement rallier tout le monde, droite et gauche confondus. François Dubé, il était au micro de Julien Moc, France Info.
Je crois qu'il est dans la continuité de ce qui s'est fait. Je voudrais rappeler que c'est François Bayrou qui avait fermé les filières professionnelles au collège, que c'est François Fillon qui avait créé le thème du socle commun, l'école du socle. Donc je crois qu'il y a une continuité, qu'on est dans un de ces drames français sur l'école comme il y en a chaque fois. Je crois que la réforme va plutôt dans le bon sens parce que elle va éviter au fond de créer des filières cachées autour des langues, etc., qui permettaient de faire le tri alors que le collège, il faut le rappeler, c'est l'école commune. Il faut rappeler aussi que les pays qui choisissent résolument l'école commune ont à la fois plus d'égalité et de meilleurs résultats que le collège français. Et je trouve que le système des options peut permettre à la fois d'aider les moins bons des élèves et de permettre aux meilleurs de développer leur qualité. Donc je pense qu'on a affaire quand même à une sorte de gesticulation extraordinaire, comme chaque fois en France qu'on parle d'école d'ailleurs, parce qu'il y a un enjeu symbolique, l'école étant le creuset de la nation, y toucher c'est prendre des risques, et en même temps l'école étant décisive pour l'avenir des enfants, les catégories sociales qui en tirent les meilleurs bénéfices sont en général très inquiètes dès qu'on y touche.
Voilà donc François Dubé au micro de Julien Moc, il vous défend très bien.
Enfin, je crois surtout qu'il est convaincu. Tous ceux qui veulent en finir avec un collège à deux vitesses savent que c'est comme cela qu'il faut procéder. Et ce qui est terrible, c'est qu'en effet... voilà, Louison vient de m'interrompre, alors je m'interromps.
Elle m'avait dit. Alors, Louison, le dessin de Louison.
Bonjour Madame la Ministre. Donc j'ai fait un petit dessin qui imagine ce que va être la mobilisation de mardi prochain, c'est ça? Donc je vous le laisse regarder. Donc il y aura des petits panneaux avec « touche pas à mon grec ». Le grec n'est pas qu'un sandwich et puis on peut imaginer plein d'autres choses. Voilà, on verra bien ce qui se passe.
Voilà, et le dessin part sur le fil Twitter des Matins de France Culture et il est sur le site franceculture.fr. Najat Vallaud-Belkacem.
Non, juste pour commenter le dessin... ce qu'il faut comprendre, c'est que les oppositions à la réforme sont hétéroclites. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure du SNES. Le SNES, à ma connaissance, ne descend pas ou n'appelle pas à mobilisation sur la question du latin grec ou des classes
Frédéric,
bilingues.
Et Hakim,
Je veux vous dire que le SNES que j'ai rencontré, il vante beaucoup contre le latin et le bilingue. Voilà, pour ne pas la citer, à savoir Frédéric Rollet, quand on sera sur cette antenne, dès la semaine prochaine,
jour de la grève. Le SNES, en fait, est surtout opposé au surcroît d'autonomie que l'on donne aux établissements.
Les quoi, 20%, c'est
oui, ça? Oui, les 20%, parce que c'est en effet une dimension très importante de la réforme qui passe là encore un peu inaperçu, mais sur laquelle je voudrais insister, c'est que enfin on donne la possibilité aux établissements de s'adapter aux besoins réels de leurs élèves avec 20% du temps pendant lequel ils construiront eux-mêmes, en fonction de la réalité des difficultés, des besoins de leurs élèves, l'accompagnement personnalisé, le travail en petit groupe. J'en profite pour dire qu'on met 4000 emplois sur ce sujet.
Les syndicats, parce qu'il faut revenir un peu sur la réforme, parce que l'esprit, c'est bien sûr l'interdisciplinarité, hein, mélanger plusieurs enseignements ensemble pour travailler. Mais là-dessus, d'un point de vue d'organisation, les enseignants sont inquiets. Ils se disent, bah, comment qu'on va faire? Je vais donner, par exemple, des heures de maths au premier trimestre, que je récupérerai le trimestre après. Là aussi, ça pose question. Puis on sait bien qu'il y a la question des moyens. Selon les établissements dans lesquels on est, eh bien, les proviseurs n'ont pas forcément la même enveloppe budgétaire. Ça aussi, ça pose question au sein des chefs d'établissement.
Najat Vallaud-Belkacem.
Oui, il y a évidemment des questions légitimes qui se posent et il nous appartiendra à nous de les d'y répondre et de lever toutes les inquiétudes dans la circulaire d'application de cette réforme. Et on est en train d'ores et déjà d'y travailler d'ailleurs, notamment pour rassurer les enseignants sur le fait que, bien entendu, le travail de préparation à cette interdisciplinarité, parce que c'est ça, c'est ce travail d'équipe qu'on nous demande, est-ce que ça va être du temps supplémentaire, est-ce que il est compter dans leur mission. Je rappelle ici que nous avons modifié la définition, le statut des enseignants, c'était au mois d'août 2014, pour faire en sorte que dans leur mission, on prenne en compte pas simplement le temps devant élèves, mais aussi le temps d'équipe, le temps de préparation en amont. Et donc, bien sûr, cette interdisciplinarité, elle nécessitera du temps de travail qui sera pris en considération. Les enseignants, je le dis très clairement, ne perdront strictement rien. Les disciplines en tant que telles ne perdent pas de temps horaire, puisque chaque discipline est amenée à contribuer à ces enseignements interdisciplinaires. Et les enseignants en tant que tels, et notamment en termes de rémunération, ne perdront rien. Donc c'est important de le préciser, et cela sera fait dans la circulaire d'application.
Bon, et le latin, alors il est où le latin ?
Et le latin, il est dans... Alors,
dans les EPI.
Enseignement pratique interdisciplinaire, langue et culture de l'Antiquité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on donne la possibilité à tous les collégiens d'être initiés à la fois au latin grec comme langue, mais aussi à la civilisation, à la culture antique. En initiant un nombre plus large d'élèves, eh bien, on augmente l'intérêt finalement pour cette matière. Et derrière, on laisse la possibilité pour ceux qui veulent aller plus loin d'avoir un enseignement complémentaire, comme on l'appelle, pardon du jargon pour le coup, mais un enseignement complémentaire, ça veut dire plus d'heures pour faire de la langue latine et de la langue grecque. Au final, entre l'enseignement pratique interdisciplinaire, initiation aux langues et cultures de l'Antiquité et l'enseignement de complément latin-grec, vous aurez exactement le même nombre d'heures que ce qui est proposé aujourd'hui en option, sauf que c'était pour 18% des élèves. Demain, tous les élèves pourront y accéder.
Mais j'ai l'impression que vous parlez du collège, de mon collège, moi, quand j'avais 15 ans, où j'ai fait du latin, j'avais une de ces secondes langues vivantes en 5e. Enfin, c'était comme ça avant, non ?
Pour vous, oui.
Vous aviez une seconde langue vivante en 5e ?
Enfin, je vais pouvoir raconter ma vie, mais enfin...
Ah là, voilà. Vous me posez une colle.
Non, mais voilà, mais enfin, bon. Une chose avant, une question de Frédéric Mettezo.
Et c'était bien ? Vous avez bien réussi ?
Bah, écoutez, voilà. Ave Najat, Moritorite et Saloutante. Dites, il y a une petite inquiétude du côté de la recherche et des universités depuis que Mme Fioraso est partie pour des raisons de santé depuis le début mars dernier. Elle n'est toujours pas remplacée, toujours pas de ministère de la recherche, alors qu'on dit que la recherche est un des moteurs de la croissance. On a le sentiment, parfois, chez les observateurs, que la gauche négligerait un peu ces segments qui ont fait à une époque, sa force de conviction et même de politique, hein, la culture d'un côté, l'éducation de l'autre et la recherche. Alors la recherche, les directeurs et patrons d'université sont vent debout, se sentent négligés. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de remplaçante à Mme Fioraso à la recherche ?
Non, c'est imminent, je rassure évidemment tout le monde.
C'est depuis le 5 mars. Hein.
Oui, mais bien sûr, mais parce que ça prendra sans doute place dans un ajustement plus général au sein du gouvernement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'enseignement supérieur et la recherche méritent évidemment d'avoir quelqu'un qui s'y consacre à temps plein, et c'est bien notre intention. Cela étant, je suis la ministre de tutelle de ce secteur. Et je
oui,
tiens...
mais vous ne pouvez pas tout faire.
Oui, bien sûr, mais par exemple, hier encore, j'étais avec le commissaire européen Moedas qui s'occupe de l'innovation et de la recherche pour veiller avec les organismes de recherche dont vous venez de parler, les universités, veiller à ce que le plan Juncker ne pénalise pas la recherche fondamentale. Il y a évidemment des sujets qu'il faut traiter, que nous traitons. Il va y avoir un secrétaire d'État ou une secrétaire d'État en charge de ce secteur. C'est imminent et on ne peut pas dire que ce secteur soit laissé de côté. Je crois vraiment que s'il y a une priorité dans ce gouvernement, c'est de manière générale l'éducation, la recherche, l'enseignement supérieur.
Vous inspirez Louison ce matin, l'âge de Valobescabel.
Qu'est-ce qu'elle nous dit ?
Louison, quoi-t-il ?
J'ai mis un petit collégien qui explique que donc, le titre étant que NVB, votre acronyme, propose des EPI. Moi, je suis très acronyme dans la vie. Et donc, il précise qu'à 9h30, il a gym et qu'à 11h30, il a acronyme. Voilà.
Une question, vous nous donnez une minute, Amélie Perrier ?
Allez-y.
On s'en retrouve, comme ça on en profite. Une question politique,
Frédéric Mais oui, une lapalissade conclusive avant d'être lâchée. Tous les ministres de l'Éducation nationale étaient soutenus dans la tempête. Savary, Devaquet, Allègre, Bayrou, Darcos, Madame la ministre, est-ce que vous êtes soutenue ? Est-ce que vous serez soutenue jusqu'au bout par François Hollande et Manuel Valls ?
Je vais vous dire, ce qui me surprend, c'est cette lecture que l'on fait précisément du soutien de François Hollande et de Manuel Valls. Qu'y a-t-il de surprenant à ce que le président de la République et le Premier ministre partagent les convictions, en l'occurrence de la ministre de l'Éducation, au moment d'une réforme ?
Il n'y a rien du tout surprenant qui vous soutienne, mais est-ce que ce sera jusqu'au bout ?
Bien oui, oui, parce qu'il y a une conviction profonde qui est qu'il faut changer le collège, qui est que nous n'avons pas le droit d'attendre, nous n'avons pas le droit de repousser cette réforme et que sur le fond, elle va dans le bon sens. Elle va dans le bon sens parce qu'elle améliorera les apprentissages de tous les élèves, des meilleurs comme des moins bons, et elle va dans le bon sens parce qu'elle en finit avec un certain nombre d'inégalités que l'on ne peut plus admettre dans notre pays. Donc oui.
Merci Najat Vallaud-Belkacem d'avoir accepté notre invitation au matin. Il y a Conseil des ministres ce matin, vous devez partir, nous ne pouvons pas vous garder pour la deuxième partie. Deuxième partie des matins, nous recevons l'écrivaine Anne Weber pour son livre Vaterland, récit aux éditions du Seuil. Merci Amélie Perrier pour nous avoir permis de dépasser un petit peu, même beaucoup. Il est 8h02.